Alors, vous voyez que ce n'est pas mis, ce n'est pas un livre de médecine. La Bible n'est pas un livre de médecine. Elle ne s'intéresse pas à tous les cas de médecine, parce que Dieu est au-dessus de tout ça, il a créé l'homme. La mort et la maladie sont venues à cause du péché d'Adam et Ève. Donc si Dieu envoie son fils Jésus, qui est la résurrection et la vie, c'est pour que la cause disparaisse. La cause de la mort, de la maladie, disparaisse. Ce n'est pas seulement les symptômes. Vous venez de dire qu'ils sont signes avant-coureurs de la mort. C'est la cause qui doit être remédiée, c'est le péché. Le péché donne la mort. Il faut faire attention à vous parce que... Regardez au chapitre 12 de Jean. 6 jours, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qui l'avait ressuscité des morts. Donc, c'est un endroit habituel où Jésus va, qui n'est pas loin de Jérusalem. Et c'est franchement un endroit où il aime aller, parce que, rappelez-vous, il y a un autre récit où Jésus voit Marthe et Marie, une s'affaire énormément au truc du ménage, et elle dit à Jésus, mais regarde, l'autre ne fait rien, elle est toujours assise tout près de toi pour t'écouter, pour parler avec toi. Et Jésus répond à la première, elle a choisi la meilleure part. Donc il y avait clairement une habitude pour Jésus d'aller chez Lazare et Marthe et Marie. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que de Jérusalem à Béthanie, il fallait passer par les monts des Oliviers. C'est quand même des endroits très classiques dans le décor biblique de Jésus. Ce sont des endroits extrêmement forts. Alors, que va faire cette femme? Eh bien, cette femme va faire quelque chose qui va choquer les gens. Au verset 2, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère malade qui était malade. Donc l'événement du parfum est déjà passé. C'est pas à ce moment-là. L'événement du parfum, ça va? Il faut faire attention. Le parfum était versé, regardez au chapitre 12. C'est marrant parce que on devrait presque inverser les deux chapitres, hein, mais voilà. Dans le chapitre 12, verset 3, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers ?» Donc 300 jours de travail, hein ? Imaginez la somme, hein ? Pour les donner aux pauvres. Il disait cela, non, qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Si aujourd'hui, vous voyez des hommes religieux qui collectent de l'argent, et des systèmes religieux qui collectent de l'argent, n'oubliez jamais, parfois un excès de confiance les rend tordus. Et les rend tordus au point qu'ils mettent de l'argent vraiment à leur propre cause, à leur propre fin. Voilà quelqu'un qui est tout près du Fils de Dieu et qui fait ça. Alors, n'oubliez jamais, dans tous les systèmes religieux, il faut peser les trois choses suivantes. OAS. Orgueil, argent, sexe. Si vous voyez ces trois choses-là, ça ne vient pas de Jésus. Tournez vos talons. OAS. Orgueil, argent, sexe. Ça élimine beaucoup de choses, hein. Si vous ouvrez vos quinquets, vos yeux, ça élimine beaucoup de choses pour trouver les vrais enfants de Dieu. Alors, que fait Jésus? Au verset 7, Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Mais elle l'a versé, elle l'a renversé. Le garder, ça veut dire quoi? Elle l'a gardé. Elle l'a gardé. Elle l'a versé sur lui. Et elle le garde dans son cœur, ce parfum. Et qu'est-ce qu'elle garde dans son cœur? C'est la mort de Jésus. Elle garde dans son cœur la mort de Jésus qui est un parfum, un sacrifice d'odeur agréable à Dieu pour le salut du monde. Le parfum de cette femme est le parfum de Christ pour le salut du monde. Tout sacrifice véritable dans le temple est accompagné de parfum. Alors, en cela, cette femme accomplit Ésaïe 43, verset 24. Allons voir Ésaïe 43, verset 24. Et il n'y a jamais de hasard dans les événements bibliques. Et si dans votre vie, vous pensez que le hasard existe, vous vous trompez. Le hasard n'existe jamais. Notre ignorance existe, oui, pour comprendre les choses. Ésaïe 43, verset 24. Qu'est-ce que fait Ésaïe ? Il reproche au peuple des choses. Et je vais commencer au verset 22. Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste. Et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté par des offrandes. Je ne t'ai point fatigué par de l'encens. Donc, tout compte fait, même s'il y a des rites, pour Dieu c'est vide. Parce qu'il n'y a pas réellement de l'adoration et un respect pour Dieu. Et verset 24, « Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de ta sacrifice. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. » Et clairement, on voit que pour Dieu, il annonce que quelque part, des aromates achetés à prix d'argent lui seront offerts. Et il y aura un sacrifice. Au verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Les péchés, les transgressions du peuple ne peuvent pas être rachetées par une fausse religion, par des rites, parce qu'il n'y a pas une véritable repentance, une véritable conversion. Et puis, il faut le sacrifice de Christ. Et le sacrifice de Christ réclame le parfum qui fait de cette offrande une offrande agréable à Dieu. Il n'y a jamais de sacrifice sans parfum. N'oubliez jamais, il n'y a jamais de sacrifice sans parfum. Nous allons aller voir dans Marc chapitre 14, versets 3 à 10. Donc dans un mois, il y a une réunion à Metz-Borny. Je n'ai pas entendu la date hier, je ne l'ai pas retenue. Pour les hommes, c'était bien. Et puis la fois d'après, je pense que c'est à l'autre église, dans Thionville. Et la quatrième fois...
Le 21 mars.
Oui, nous, ce sera peut-être au mois de septembre, ce sera ici probablement. Ça vaut la peine qu'un de vous fasse le message, pas forcément moi. Voilà, je m'y refuse. J'ai vu hier, Emmanuel Piloteau faisait un très bon message. Et je pense qu'il est en train de s'épanouir depuis que... Il y avait un très bon pasteur qui est parti, mais vous voyez, parfois il faut que le chêne disparaisse, il faut que le cyprès pousse. Hein? Et c'est comme ça.
C'est moi, humble, ça, comme image.
Comment ?
C'est très humble comme image.
Et c'est dans Khalil Gibran, un poète libanais.
Et il chante bien, hein ?
Oui, oh là là, pour chanter, là, il nous bat tous. Hein? Alors, dans Marc chapitre 14. Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Alors vous imaginez, il allait aussi chez quelqu'un d'autre à Béthanie. Simon le lépreux. Il rentrait chez un lépreux. Peut-être un lépreux guéri par Jésus, évidemment. Parce que je ne vois pas les autres disciples y rentrer. Hein. Ils auraient trop peur. Jésus étant à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Vous voyez, c'est la même somme. et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, donc la mort et résurrection de Jésus, pour notre salut, sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc clairement, c'est un moment solennel, tout à fait imprévu pour les apôtres et tout à fait prévu pour Dieu. Dieu en connaît la signification éternellement et il connaissait la femme qui allait le faire. Il connaissait la femme qui allait le faire. Ça c'est plus qu'évident. Et maintenant, prenons Matthieu chapitre 2, verset 11. Matthieu, chapitre 2, verset 11. Moi, ce que je cherche, c'est que vous ayez la passion en lisant la Bible. Vous ayez la passion en lisant la Bible. Que vous ayez toujours soif. Que vous vous rendez compte que c'est vraiment un abreuvoir, il y a de l'eau vive. Et qu'il ne faut pas lire ça comme par obligation. Oh, il faudrait, oh, j'ai pas encore lu ma Bible, si et ça. Ça, s'il vous plaît, vous avez certainement de la gourmandise pour une ou telle chose. Et ça, personne ne vous y pose, vous jetez dessus. Hein? Un c'est chocolat, l'autre c'est le pinard, l'autre c'est le beefsteak, l'autre c'est la saucisse, et le troisième c'est, je ne sais pas, la choucroute. Eh bien, sur la parole de Dieu, le point commun de tous les vrais chrétiens, c'est qu'ils se jettent sur la parole et ils la mangent. Hein? Matthieu, chapitre 2. C'est la nourriture de nos âmes. Verset 11. Vous savez que Hérode demande aux rois mages de lui renseigner l'endroit où est le roi des rois. Et pas du tout, ils ne vont pas le faire. Mais ils vont se rendre tout près du petit enfant à Bethléem. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, l'encens et la myrrhe. Il y en a des gens des trois qui annoncent la mort et l'embaumement de Jésus. Ouch. Alors, tout est programmé dans la venue de Jésus. Tout est programmé dans le plan de Dieu et Jésus le sait. Aux noces de Cana, il dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Hein? Et puis à un moment donné, il dit, père, mon heure est venue. Glorifie ton fils comme ton fils t'a glorifié. L'heure précise, chronométrée. Rien n'est fait par hasard par Dieu. Il n'y a que chez nous qu'on bricole. Prenons le psaume 45. Psaume 45. Il faut quitter toute idée banalisante et qui diminue Dieu. Dieu est infiniment grand, ce n'est pas un bricoleur. Psaume 45. Verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Regardez comme David est, hein. Donc c'est plein de charme, c'est des paroles qui viennent malgré lui, par le Saint-Esprit. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Imaginez bien que c'est le Christ hein, dont il parle. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint en épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice. Justice, c'est sédèque, hein? C'est sainteté. Hein? Tu aimes la justice. et tuer la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ô Dieu, ton Dieu, ça veut dire, ô Christ, ton Père, t'as oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues, donc tous les prophètes. Ce verset-là, au verset 8, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, ô Christ, ton Père t'a oint. La femme qui oint Jésus de l'huile, du parfum, fait le geste de Dieu. Elle est guidée par le Saint-Esprit. Elle fait le geste de Dieu. Verset 9. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tout événement. Pensez au romage. Regardez. Si on lit les psaumes comme ça, boum, en TGV, il faut toujours méditer la parole. On est dans l'auto, on est autre part, on est dans le bus, j'ai lu ça quelque part, Seigneur, aide-moi, mais où est-ce qu'il y aurait bien quelque chose encore dans la Bible là-dessus? Si on passe toute sa vie comme ça, je vous garantis que le Saint-Esprit nous éclaire, puis vous rentrez, vous notez, et vous allez aller vous enrichir à une vitesse formidable. Tout doucement au début, et de plus en plus vite après. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tout événement. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Et voilà. Psaume 45, c'est évidemment un psaume qui concerne Christ. Il y en a d'autres comme ça. Ô Dieu, ton Dieu. Le psaume 110, par exemple. Ô Christ, ton Père, te dit, assieds-toi à ma droite. Dans le psaume 110. Dieu dit à Dieu, assieds-toi à ma droite. Dieu le Père dit à Christ, assieds-toi à ma droite. Tu es prêtre pour l'éternité à la manière de Melchisédek. Si nous n'avons pas une notion exacte de la divinité de Jésus, on ne peut jamais comprendre ces textes. On se dit, c'est symbolique, c'est allégorie. On comprendra plus tard, ou plutôt, il n'y a rien à comprendre. Il ne faut pas se casser la tête pour ça. Voilà, on va loin avec ça. Un jour, on ne lit même plus la Bible quand c'est comme ça. Alors, nous allons retourner dans Jean, parce que c'est là que nous allons parler de la résurrection, nous allons lire le récit de Lazare. Jean 11. Donc, c'est le thème de l'amour de Christ qui est fondamental. Au verset 3, Jean chapitre 11, verset 3, les sœurs, imaginez Bénédicte et Véronique, qui ont perdu Timothée ou Noémie, envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Quand vous avez quelqu'un de malade, quand vous avez quelqu'un qui est souffrant, pourquoi est-ce que vous ne dites pas à Dieu, Seigneur mon Dieu, celui que tu aimes est malade. Pourquoi est-ce que vous n'osez pas le dire? Pourquoi est-ce que vous n'y pensez pas? Ça touche le cœur de Dieu. Parce que tout compte fait. Jésus est mort sur la croix pour tous les hommes. Jésus aime la crapule, aime le petit bourgeois bien pensant qui croit qu'il est toujours en horte. Il aime le dépressif, il aime le syphilitique, il aime le sidaïque, il aime tout ce qu'on veut. Sauf que nous, on fait un triage. Mais pour Dieu, celui que tu aimes est malade. Donc, quand on présente quelqu'un à Dieu, ce n'est pas au nom de notre amour. Il faut faire attention, parce que c'est assez relatif, notre amour. Ça a des connotations, il y a des graduations suivant la personne. Mais si vous dites à Dieu, celui que tu aimes est malade, là, vous tapez juste dans la prière. Et là, Dieu écoute et entend. Parce que la demande que vous reposez n'est pas basée sur vos sentiments. Elle est basée sur quelque chose d'objectif. C'est l'amour divin incommensurable pour sa créature.
Même si on prie pour un non converti ou quoi, alors
oui.
On peut dire celui que tu aimes.
Ben oui, plus pour les bons et les méchants, dit Jésus. Alors, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Vous avez vu ça? quand on lit ce texte-là, ah, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, hein. Jésus allait chez eux et oh, il les aimait tellement. Les amis, je voudrais vous dire que si vous avez donné votre vie à Jésus, Jésus est là, même si vous ne le voyez pas. Et il vous aime autant que Marthe et Marie et Lazare. C'est vous qui mettez un frein. C'est vous qui mettez un frein à l'amour de Jésus. Ce n'est pas lui. Dieu ne met pas un amour imparfait à portée du chrétien. Son amour est éternel et fidèle. Et il est entier, autant que pour Marthe, Marie et Lazare. Combien de fois des personnes n'ont pas la notion juste de l'amour de Christ? Et ils n'ont pas la paix à cause de ça. Lors, donc, qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Ah là là, c'est pire. Voilà que Jésus fait exprès de ne pas y aller. Jésus fait exprès de ne pas y aller. Aïe, 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 aïe. Et on pourrait dire, Marthe et Marie vont entrer en colère. Et puis tous ceux qui sont entourés. Tu vois bien, hein, c'est qu'un un petit prophète de rien du tout. Il ne vous aime pas tellement que ça. Il y a eu sûrement des doutes et des critiques. Et des épreuves. Ces 2 jours de doutes et d'épreuves, si elles connaissent vraiment l'amour de Christ, elles ne changent pas de position. Elles attendent Jésus. Quand vous avez fait des demandes pour quelqu'un ou que vous la faites pour vous-même et vous ne voyez pas qu'il y a de réponse, là vous êtes testé. Là vous êtes testé. Le silence de Dieu n'est jamais un mépris. Le silence de Dieu n'est jamais un mépris. Le silence de Dieu, c'est simplement que vous avez à vous rapprocher encore de Christ. Et à ce moment-là, le silence s'arrêtera. Vous verrez des signes. Alors, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Bon, les disciples, ils sont pas très heureux. Ils préfèrent que Lazare reste mort, et puis, pouette, non, on n'a pas envie d'être tué, hein. Parce qu'ils sont en train de préparer un sale coup, ils le savent tous. Regardez bien. Les disciples lui disent, Rabbi, les juifs, les responsables, hein, tout récemment cherchaient à te lapider, tu retournes en Judée. Ils n'attendent que ça, hein, qu'ils se mettent dans la gueule du loup. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc ça veut dire que la journée commence à 6h15, finit à 6h15, hein, j'ai vu ça là-bas. Ben, à un moment donné, la journée se finit. Mon passage sur terre se finit. Et mon passage se finit, je vais être crucifié et ressuscité, vous allez avoir, à la 12e heure, un signe puissant que je suis la résurrection et la vie. Et que vous n'avez pas à avoir peur. Mais c'est un signe dans lequel vous devez croire. Vous n'en avez pas encore la démonstration tout de suite. Vous n'en aurez la démonstration que plus tard, quand Marie de Magdala et les autres femmes vous appelleront et vous irez au tombeau, et puis après vous me verrez sur le mont Tabor en Galilée avec 500 frères et sœurs. Donc, c'est une épreuve. Il y a toujours des épreuves dans la foi. Il y a toujours des temps pour mûrir. Et, retenez bien, il y a 12 heures, il n'y en a pas une 13e heure. Et à un moment donné, c'est fini, Jésus doit s'en aller. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Donc, quelqu'un avec Jésus, il ne doit pas douter, parce qu'il voit la lumière du monde, c'est Jésus. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, c'est-à-dire il commence à douter de Christ, il bronche et sa lumière, la lumière n'est pas en lui, la foi, la relation avec Jésus disparaît. Donc il les met à l'épreuve. Il met tout le monde à l'épreuve, évidemment, comme nous aussi. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Ça, c'est une expression qui est courante dans la Bible pour dire la mort du croyant n'est qu'un passage. Rappelez-vous, chaque jour, vous vous endormez dans votre lit, vous réveillez au matin. Vous avez confiance que vous allez vous réveiller au matin. Si vous êtes tellement angoissé que vous n'allez pas vous réveiller, vous ne dormez pas une minute. Vous avez peur de mourir. Donc, vous vous endormez, vous avez conscience que vous vous réveillez. Mais la mort, c'est la même chose. Il faut s'endormir, mourir dans la foi. C'est pour un temps, la mort. Après, c'est la vie, la résurrection. C'est une question de foi. La mort est une question de foi, comme tous les jours au soir, quand je m'endors dans mon lit. C'est une question de foi.
Sur la table d'opération.
Ah oui, oui, sur la table d'opération. Et je voyais au loin l'infirmière qui me regardait, qui préparait la piqûre d'endomorphine, parce que mon cœur, il battait à 37. Elle regardait la machine, mais je suis futé, je mettais ma main sur mon poignet, je sentais. Hein. J'avais déjà remarqué pendant l'opération, hein, parce que le bas était endormi, j'ai remarqué que ça ne stockait pas normalement, mais je ne sais pas, ils n'y prêtaient pas attention. Mais à la salle de réveil, et alors pratiquement, je voyais des gens qui préparaient sa piqûre. Je dis, attendez encore quelques secondes, ne vous tracassez pas. J'ai prié, puis voilà. Boum, boum, c'est remonté. Mais la menace était là. Hein. La menace était là. Hein. Et vous croyez, un arrêt cardiaque, c'est possible, hein?
Moi, la semaine dernière, j'ai discuté avec une personne qui a peur de s'endormir dans son lit maintenant. Elle dort assise sur son canapé. Quelqu'un de malade, de vieillissant, et qui a peur de ne pas se réveiller. Ça doit être terrible.
Oui, évidemment. Et c'est quelqu'un à qui il faudrait annoncer l'évangile, vraiment. Vraiment, et prier avec elle, chanter avec elle. Hein. Surtout chanter et prier. Hein. Alors, regardez ce que Jésus a dit au verset 12. « S'il dort, il sera guéri. Il se réveillera. » Et guéiro, il se relèvera. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Ça, c'est Jean qui ajoute ça. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et c'est à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, nous allons vers lui. Donc, c'est pour la gloire de Dieu. Au verset 4 et 5, la gloire de Dieu doit se révéler. C'est le but final et total de Jésus. Ça va? Si vous doutez que vous êtes né pour que la gloire de Jésus se manifeste en vous, c'est raté. C'est raté. C'est pas vous qui êtes intéressant. Vous êtes né pour que la gloire de Jésus se manifeste sur vous, dans vous. C'est simplement ça qui restera et qui compte pour Dieu le Père. Si vous pensez que vous êtes né pour vous-même, c'est contraire à la pensée occidentale, narcissique, nombrilique, qui fait de chacun de nous une île, une entité, un continent à part des autres. Nous sommes nés pour que se manifeste la gloire de Christ. Ne jamais oublier ça. Donc, bien sûr, il faut évidemment faire attention à ça. Ça change toute la destination de notre vie. Et ce n'est pas pour rien qu'on est né. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste sur nous. L'amour de Dieu est blessé. L'amour de Dieu est profondément agressé. Parce qu'il n'a jamais voulu qu'il y ait le péché, il n'a jamais voulu qu'il y ait la mort. Qui est le chagrin, qui est la torture, le viol. Dieu n'a jamais voulu ça. Il est profondément blessé, blessé. Et où est-ce qu'on voit ça? Au chapitre 11, verset 33, Jésus voyant pleurer Marie, hein, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Au début, j'ai toujours cru, en suivant rien que le texte français, frémis, que c'était qu'il était émotionné. Et quand on regarde dans le texte en grec, des fois, il faut commencer à se remettre en question, hein, même jamais trop tard. Eh bien, c'était indigné. Il est fâché contre la mort. Il est fâché contre la mort. C'est son ennemi. La mort et la maladie sont l'ennemi de Christ. Et le péché, évidemment, qui amène ça. Mais sachez bien que la gloire de Jésus, c'est de briser cet ennemi, la mort. 1 Corinthiens 15, verset 35. Corinthiens 15, 35.
15.
Quelqu'un, 15, verset 35. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt pas. Donc c'est la comparaison de la graine hein, dans le sol. Hein. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps qui lui plaît et chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, il sort du grain qui meurt une plante avec des autres grains qui vivent. Et vous avez toute la description de la nouvelle vie, de la résurrection. Vous avez toute la description. Ça vaut la peine pour vous, si vous avez des questions, de vous dire que tout est prévu, Dieu a programmé le brisement de la mort, l'anéantissement de la mort. C'est extrêmement important. Dans le même chapitre, au chapitre 15, verset 54, « Lorsque ce corps corruptible, donc qui meurt et qui pourrit, aura revêtu l'incorruptibilité, 15, 54. Que ce corps mortel revêtu de l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui était écrite. La mort était engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ça, c'est Osée, 8 siècles avant. Osée, chapitre 13, verset 14. C'était annoncé que la mort serait brisée. Et déjà dans Job, 21 siècles avant Jésus. Ok? Donc, le programme de Dieu, c'est revenir au point de départ de la création, anéantir le péché et l'effet du péché, qui est la mort. Donc, l'événement de la mort et de la résurrection de Lazare est une préfiguration de la guérison des peuples, de l'anéantissement de la mort. Donc, on est toujours en relation avec le premier signe qui est donné dans Jean. Dans Jean, je vous ai dit au chapitre 2, le banquet des noces à Cana. Pourquoi est-ce qu'il y a des noces à Cana? Quand Dieu fit voir sa gloire, il a multiplié le vin. Et Jésus, et Jean dit, Jésus fit voir pour la première fois sa gloire. Mais je vous ai lu Ésaïe 25, où sur à Jérusalem, Dieu anéantit le voile qui est sur toutes les nations, le voile de la mort. Ésaïe 25, il anéantit, verset 6 à 9, il anéantit la mort. Et le repas sur le moment Sinaï, chapitre 25, le mont Morija à Jérusalem, au chapitre 25 d'Isaïe, c'est la préfiguration de l'anéantissement de toute la mort. La résurrection de Lazare, tous les autres signes qui viennent dans l'évangile de Jean sont en corrélation avec le premier signe. Il y a une pensée profonde dans l'évangile de Jean. Alors, il y a quelque chose qui peut nous garder et qui est extrêmement important, c'est la foi. La foi est l'instrument aujourd'hui de bataille contre la mort. Prenons la première épître de Pierre, chapitre 1. Contrairement à ce qu'on pense, souvent, « Oh, nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de pouvoir. » Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas bien leur évangile ou qui s'écoutent de trop. Qui se laisse aller à des perturbations, comme il y a des perturbations climatiques, réchauffement climatique, il y a des perturbations émotionnelles. Eh bien, ça, il n'y a pas besoin dans la foi. Il faut apprendre à les mettre de côté. Première épître de Jean, chapitre 1, versets 5 à 9. De Pierre.
923.
Je vais commencer au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, la résurrection de Jésus crée en nous une espérance vivante qui nous régénère. Qui nous régénère. Cette espérance est tellement vivante, est tellement forte qu'elle nous régénère. Hier matin, à 6h du matin, devant la poste à Virton, il y a un jeune homme qui balayait la rue, les amis, qui à l'âge de Apinès et d'Élodie, il balaye la rue et il me demande, il avait les écouteurs, il écoutait de la musique, je lui parle quoi. Alors il tire les écouteurs, mais j'avais remarqué qu'il faisait toujours bien son boulot, tout le temps, et qu'il avait un bon regard. Alors je lui dis, je m'appelle Jean, je lui donne ma carte, si tu as besoin, comme ça je m'avançais vers lui, je t'ai poussé, et lui, il regarde la carte, « Ah, mais c'est moi qui vous ai écrit il y a un an et demi que je voulais naître de nouveau. J'habitais à Longwy chez ma copine et maintenant je vais revenir à Saint-Marc. Et vous avez déposé la Bible chez ma grand-mère. J'ai regardé la Bible. » Alors, tu viens habiter à Saint-Marc. Que tu habites à Longwy ou à Saint-Marc, on va étudier la Bible ensemble si tu veux. Oui, d'accord. Alors, il m'a répété, « Je veux naître de nouveau, monsieur Bayeux. » Là, c'est la première fois que j'en entends un pareil qui me sort ça.
Je veux vivre, non, je veux être de vivre.
Alors là, si celui-là vient dans une église, à mon avis, c'est déjà pourquoi il vient. Parce que je regrette de vous le dire, il y en a parfois qui viennent dans les églises, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent. Et où ils lisent la Bible, ils ne savent pas pourquoi. Alors, nous sommes dans le premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, nous passons au verset 4. « Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc, nous sommes réservés pour une manifestation glorieuse de la vie, au mont Morija, à Jérusalem, de toutes les nations, de tous ceux qui ont cru en Christ, dans la puissance de Christ, qui brise la mort et le péché, qui brise Satan. Nous sommes là pour une venue sur terre, pour une manifestation glorieuse, participative. Nous serons clairement intégrés à la gloire et nous serons clairement actifs dans sa gloire. Et nous sommes pour le moment gardés par la foi. Dieu nous a donné la foi pour nous garder attachés à cette espérance et à ce moment extrêmement important, important, qui nous est destiné. Ce qui nous garde, c'est la foi. C'est un lien. C'est pour ça que Paul, dans l'épître aux Éphésiens, nous scellés, nous sommes scellés, nous sommes attachés par la foi. Et dans Romains chapitre 1, le juste vit par la foi. Donc Galate aussi. Donc tout l'événement de Lazare, c'est l'appel à la foi. Retournons à Jean chapitre 11, verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ça, j'en connais ici qui aurait pu dire la même chose. Parce que peut-être même qu'ils aimaient Jésus, mais il a fallu qu'ils le disent, quoi, hein, Marthe. Parce que c'est sous le coup de l'émotion, de la souffrance, évidemment, et la souffrance peut faire dégringoler, écarter de Dieu. Mais regardez bien, Jésus ne s'écarte pas de Marthe. Verset 22. « Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Vous imaginez ce qu'elle dit ? Vous imaginez ce qu'elle dit ? Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Si vous voulez être dirigé par le Saint-Esprit et avoir une vie où vous sentez que votre vie, c'est plus simplement votre vie, vous rendez compte que c'est aussi la vie que Dieu dirige. À des moments, vous êtes dans des moments de décision très importants et vous vous recueillez, vous êtes dans le silence et vous demandez au Seigneur, est-ce que Seigneur, tu seras avec moi? Tu me dirigeras là-dedans? Est-ce que j'aboutirai? Il y a un silence qui se fait, qui est un vide. Ce n'est pas la peine de prendre la décision. C'est un vide, il n'y a plus rien sous les pieds. Il y a un silence qui se fait et il y a une immense paix qui vient. et la paix de Jésus vient sur vous, tu peux y aller. Je serai avec toi. Je te précède. Et cela est extrêmement important. Moi, j'en ai fait souvent l'expérience. Je vous ai raconté l'histoire de la petite fille de 12-13 ans qui avait été enlevée. Et j'ai fait toutes les maisons closes. Quand j'ai dit aux parents, oui, je vais chercher votre fille, et 4 jours après, elle était rentrée, ça a été dur pour moi de rentrer dans les maisons closes et discothèques et tout ça, me faire insulter, montrer le derrière et tout. Mais je savais que j'y allais, le Seigneur était avec moi. Et quand je voyais qu'il voulait me frapper, il était comme arrêté. Parce que quand les parents pleuraient en face de moi, je priais et j'avais la paix du Seigneur en moi. J'ai dit, oui, je chercherai votre fille. Vous devez peser vos décisions et peser avec qui vous les prenez. Le vide, ça correspond à vous-même. Ça correspond à l'humain, le vide. C'est des forces qui s'évanouissent. Si vous avez la paix, si réellement vous avez consulté le Seigneur et que vous priez, il y a une force en vous, quoi que vous ne voyez rien se faire, vous savez bien que Dieu conduira les choses. Pensez à Abraham. Pensez aux prophètes. Pensez à Jésus. Pensez à beaucoup de croyants. Hébreux chapitre 11. Vous les lisez tous. C'est la foi qui est agréable à Dieu. Alors ici, là, on voit que Marthe sait que Jésus a une foi immense qui correspond tout à fait à la volonté de Dieu. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Un peu avant, dans les chapitres précédents, Jésus avait dit, « Mon Père agit jusque maintenant, et moi aussi j'agis. » Similitude, coordination de l'action du Père et du Fils, et de la volonté et de la pensée. Alors Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, pas tout de suite, plus tard. Mais Jésus lui répond, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Là, nous avons la confession de foi. Ce garçon-là, qui est venu là, qui était sur le trottoir, hein, hier matin, il me fallait du mazout pour partir à la réunion des hommes. Je dis, s'il n'y a pas d'argent sur le compte, on ne sait pas y aller. Et j'en lui arrivais. Il fallait du mazout dans l'auto. J'y vais, hein, par la foi, je vais voir, il restait quelques pécadilles hein, sur les comptes. Je vais chercher le carburant, mais entre-temps, je sors de la poste, je tombe sur lui. Il veut naître de nouveau. Eh bien, je dis, j'ai bien commencé ma journée, j'étais tout joyeux, et c'est le texte que je vais lui présenter. Qu'est-ce qui se passe au verset 27 ? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Si vous confessez cela, vous appartenez à Dieu. Dans la première épître de Jean, il est clairement mis que celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. La première épître de Jean. C'est tout clair. L'enjeu était formidable. Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est que quand Jésus va devant le tombeau, au verset 38, il est de nouveau dans le sentiment d'indignation et de révolte contre l'existence universelle de la mort et de la souffrance. Le Christ a une bataille à livrer, c'est anéantir le péché, la mort et la souffrance. Et il l'amène. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Verset 38. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a déjà 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Donc elle se tait. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Cette parole-là, pensez bien que quand il se fait arrêter par Judas qui l'embrasse, et il se fait interroger par le grand prêtre, qui se fait gifler, crucifier, insulter, il l'a dit, hein, il l'a dit dans son cœur, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Et quand il ressuscite, pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui résistent à la torture dans les goulags en Russie? Dans les goulags en Russie, c'est inimaginable ce que les chrétiens ont souffert. Dans certains pays musulmans, c'est inimaginable. Ça va au-delà de l'humain. On ne s'intéresse pas à eux, on ne s'intéresse qu'à leur souffrance. Il faut les faire souffrir. Et ces chrétiens-là ont une foi, une relation à Dieu. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Ils seront dans la gloire de Christ, dans les tout premiers à la résurrection. Dans les tout premiers, dans la gloire de Christ. Et les autres qui les ont torturés. Ouais, peut-être un ou deux qui se sont convertis, qui ont été tellement frappés par la foi des gens qui se sont convertis, mais les autres, dans les tourments éternels de l'enfer. Alors, Lazare sort du tombeau, mais il se passe quelque chose qui est tout à fait réel et qui se passerait comme ça aujourd'hui au verset 47. Les principaux prêtres et pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent : que ferons-nous ? Cet homme fait beaucoup trop de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain prêtre cette année-là, leur dit : vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il n'y dit pas cela de lui-même, mais étant souverain prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à travers des choses d'un homme mauvais, dans la bouche d'un homme mauvais, il sort une prophétie, et une prophétie qui se réalise. Une prophétie qui se réalise. Dieu dirige tout. Même un tordu peut vous adresser une parole. Je dis, mais pourquoi il me dit ça? Mais je veux réfléchir. C'est lui qui l'a dit ou c'est Dieu qui l'a dit ou c'est le diable? Vous prenez le temps de réfléchir, vous pesez. Vous prenez du recul. Mais d'où ça vient ce truc-là qui m'a dit? Vous seriez étonné parfois de ce qui sort de la bouche des gens qui n'ont même pas pesé, hein. 2 secondes après, ils l'ont oublié. Et au verset 32, ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Rendez compte qu'il vient de faire quelque chose d'exceptionnel, de ressusciter un homme, de mettre la joie à Béthanie, dans des familles, et qu'eux décident de le faire mourir. Vous voyez la puissance des ténèbres, à quel point elle peut être grande? Des ténèbres. Parce que les ténèbres, tu peux avoir affaire à des athées qui dirigent un pays, regardez en France, c'est aussi des ténèbres. C'est pas forcément la religion. Regardez en URSS, ils avaient supprimé la religion. Pendant 70 ans, le communisme, c'était l'athéisme. Regardez les ténèbres. Les ténèbres, c'est les gens qui sont liés dans le péché et qui sont conduits par le maître des ténèbres. Et vous voyez ici que les enfants dispersés à travers le monde seront réunis un jour. Donc, c'est Ésaïe 25, c'est les noces de Cana. C'est Apocalypse 19, le repas avec l'épouse et la robe. Tout se tient dans la théologie de Jean. Et c'est une théologie festive, c'est une théologie glorieuse, pleine d'espérance. J'étais sur mon lit au matin, j'avais tellement mal, je ne savais pas où me mettre. Je me mets sur le lit, je dis pas la peine de lire mes notes, je les ai déjà lues et relues, je vais méditer ça. Et puis, je me dis, mais dans l'évangile de Jean, il n'y a pas la transfiguration. Sur le mont Hermon, et dans Matthieu, Luc et Marc, il y a la transfiguration, mais dans l'évangile de Jean, il n'y a pas. Mais pourtant, c'est un lieu incommensurable de beauté où Jésus apparaît dans la gloire avec Moïse et Élie. Il y était en plus, mais il ne la relate pas dans son évangile. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi il ne le met pas? Pourquoi il ne le met pas? Et je me suis dit, j'étais là, je me disais, Seigneur, mais pourquoi il ne l'a pas mis? Ben, je vais vous dire. Jean avait l'habitude de mettre sa tête sur son épaule. Jean faisait l'expérience de la présence de gloire de Dieu tous les jours. Tous les jours. Dès qu'il était tout près de son Jésus, il était à la fête. Il était à la fête. C'était un cœur dirigé. Un cœur. Et quand j'ai vu ce jeune homme-là, hier à Virton, qui me parlait comme ça, j'ai vu ses yeux, je me dis, mais il y a des belles choses qui l'attendent. Il a soif, il y a des belles choses qui l'attendent. Parce que ce qu'il avait mis sur sa carte postale et envoyé, il l'a toujours dans l'âme. Il persiste. Il a une grande soif. Alors, je me suis dit, mais pourquoi Jean ne le met pas? Parce qu'il a eu cette expérience intime et personnelle de la présence glorieuse du Fils de Dieu tous les jours auprès de lui. Les autres étaient un peu plus superficiels et parfois sortaient des réflexions casse-pieds, mais bon, il s'est tu. Il avait son expérience intime de Jésus, qu'il a gardée, que Dieu lui avait donnée, et on la retrouve dans le chapitre 1. Je vous explique pourquoi, et puis j'en termine. C'est là que je vois comment ce qu'est l'apôtre Jean. Si quelqu'un veut lire, c'est dans Jean, avec une forte voix pour que ce soit enregistré, Jean chapitre 1, verset 9, jusqu'au verset 18. Il faut parler bien haut pour que ce soit enregistré. Jean chapitre 1, verset 9 à 18.
Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. »
Alors, vous vous rendez compte, nous avons contemplé, regardez, la modestie, l'humilité de cet apôtre. Ils mettent tout, bien sûr, tous les apôtres dedans, parce que, et tous ceux qui étaient au mont Tabor, ils étaient 500, mais lui a commencé, il avait une longueur d'avance, il ne s'en vante pas. Mais il a vu que Jésus était plein de grâce et de vérité, il le voyait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin, il n'a pas eu... besoin de marquer cet événement du mont Hermon. Moi, je pense que tout simplement, c'était tous les jours une révélation très profonde pour lui. Et chacun de nous ici, dans une assemblée, si petite soit-elle ou grande, chacun de nous a une expérience différente de la personne de Jésus. Chacun de nous. Il ne faut jamais être jaloux l'un de l'autre. Il faut faire communauté de foi ensemble et il faut partager notre foi. Il faut partager notre foi pour progresser, les amis. Mais il ne faut jamais se jalouser. Il faut toujours s'encourager les uns et les autres pour mieux connaître Jésus-Christ. Alors, ce qui me fait dire que tout ça, c'était au matin. Pourquoi il n'avait pas mis la transfiguration dans son évangile? Eh bien, regardez la première épître de Jean. Si quelqu'un veut lire... Vous allez voir, il se répète d'une certaine manière. le premier chapitre, le premier épître de Jean.
Page 929.
Et vous allez voir qu'il s'agit d'une expérience, une expérience extrêmement profonde de l'apôtre Jean, qui, dans laquelle, à mon avis, tous ceux qui l'ont connu ont participé après. Hein. Le Saint-Esprit agissait puissamment, sans doute, dans les prédications et dans l'enseignement de l'apôtre Jean. Encore quelqu'un d'autre qui veut lire à voix haute ?
Mais verset combien ?
Le chapitre 1 de la première épître de Jean.
Oui, chapitre 1.
Tout le chapitre.
Ce qui existait dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons regardé et nos mains l'ont touché. Il s'agissait de la parole qui donne la vie. Cette vie s'est manifestée et nous l'avons vue. Nous lui rendons témoignage et c'est pourquoi nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été révélée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ceci nous-mêmes afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a aucune obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité. Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous.
Formidable, hein ? Formidable. Alors, si quelqu'un veut prier, je vais vous proposer un chant.